Alors nous avons évidemment, comme toujours Ludo, des invités en plateau ce soir. Yves Cassel, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, tu es de retour parmi nous en tant que partenaire de la porte ouverte à toutes les fenêtres sur 48FM avec le projet archiveradio.be au pluriel, s'il vous plaît. On a diffusé la semaine dernière et celle d'avant. En fait, l'émission radio en deux volets. On se retrouve après la pub et on va évidemment en causer en long et en large ce soir avec toi. Tu n'es pas venu seul aussi puisque nous avons la chance de recevoir ce soir un vieux poilu qui a fait quasi la guerre des ondes, on va le dire comme ça, parce qu'on va aussi reparler de cette fameuse guerre des ondes, pardon, ce soir à la Pirard. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, toi, en tant que vieux poilu, bah, t'as participé au projet de Radio Basse-Meuse, puis RBM, FM 56 et Ciel Radio,
voilà,
ici.
J'apprends que je fais partie des archives. Là, j'apprends que je fais partie des archives et puis maintenant poilu, donc ce sera quoi après comme...
Écoute, je me permets aussi de prendre ce chemin-là puisque hors antenne tu disais ben voilà, la radio c'est un truc de Jones et puis, moi ça fait longtemps que je me suis arrêté, voilà, soit. Donc on signalera aussi la présence ce soir parmi nous de Samuel. Salut Samuel et re-bienvenue sur les ondes de 48FM, tu es là en
Merci.
Spectateur puisque tu es ami FB avec notre ami Yves Castel en chair et en os parmi nous ce soir. Voilà Ludo, le programme en ce qui me concerne.
La bolle de Florine, la bolle de Florine, la bonne tisane pour le froid. Une tasse de bolle de Florine après les repas soulage le foie et rafraîchit l'intestin. Votre pharmacien vend la bolle de Florine.
De bol de Florine.
Et tout va mieux après.
Pour commencer l'émission à l'heure, peut-être.
Oui, par exemple.
Voilà, par exemple. Yves et Alain, bonsoir.
Bonsoir, on est toujours là.
Et puis voilà, on vous remercie d'être là. Première question vers toi, Yves, puisque bon, bah, tu es à l'initiative évidemment de On se retrouve après la pub. Qu'on a diffusé les deux dernières semaines, en fait, volet 2.
Et je vous en remercie.
Le 14 octobre dernier, voilà, avec grand plaisir. Première question vers toi avant de cuisiner Alain, Yves. Quelle drôle d'idée quand même de s'attacher à ce projet. Effectivement, pourquoi en fait Archives Radio a-t-il souhaité en fait de se pencher sur cette question de l'arrivée de la pub sur les ondes FM au tout début des années 80?
Eh bien, dis-nous un peu. Tout simplement, l'une des principales raisons, c'est que ça n'avait jamais été fait, qu'on trouvait que c'était un sujet intéressant dans la mesure où la publicité a tout de même bouleversé le fonctionnement des radios. Ça a été une des principales conséquences de la guerre des ondes, comme on va en parler. Et bon, on avait déjà quelques archives là-dessus. On avait des fils à tirer auprès de gens qu'on connaissait qui pouvaient nous en parler. Donc on s'est dit que c'était un chouette petit sujet pour être diffusé en radio.
Mmh. Voilà, et d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début d'émission, mais Alain, ici présent, n'était pas parmi les témoins de l'époque qui ont effectivement été interviewés dans ces deux volets.
Absolument, parce que je vais avouer que je ne le connaissais pas encore non plus, donc voilà, j'ai fait sa connaissance il y a peu, mais on a eu, bien sûr, comme on l'a entendu dans l'émission, d'autres personnes de Radio Basse-Meuse. Ce sont des gens qu'on a eu l'occasion, entre autres, de rencontrer sur une page Facebook consacré à FM 56 et à Radio Basse-Meuse, et c'est comme ça qu'on a eu contact avec certaines personnes, mais on peut très bien un jour réinterroger Alain sur son parcours radiophonique sans aucun souci.
Bien sûr, voilà, avec plaisir. Ben oui, Radio Basse-Meuse tout d'abord et ensuite RBM, radio emblématique et qui sait, on va dire assez rapidement dans l'illégalité, on reviendra aussi là-dessus, hein, sur les différents aspects, mais qui s'est lancé dans la diffusion de publicité commerciale, tout d'abord en local, on va le dire comme ça là, avant effectivement de professionnaliser, je ne sais pas si le terme est exact, mais ce genre d'acte.
D'abord, il faut quand même rappeler que Radio Basse-Meuse, on avait un petit émetteur qui donnait à peine sur le boulevard de la Souvenir à l'époque. l'époque, mm-hmm. puisque c'était effectivement l'époque des radios pirates, des radios privées, des radios associatives, etc. etc. Et effectivement, c'était le public de la rue du Boulevard de la Sauvenir, la rue Pont-d'Avroy, vraiment le public de Liège. Et puis, on a commencé effectivement à avoir un émetteur un petit peu plus puissant, on a commencé un peu à s'étendre, et effectivement, pourquoi pas mettre de la publicité, parce que le matériel, bon, ça coûte cher. À cette époque-là, évidemment, nous n'étions pas payés. Donc, à l'époque, on payait d'ailleurs une cotisation. Mmh, donc, moi, j'ai payé, en arrivant à Radio Basse-Meuse, je crois que j'étais un des derniers, d'ailleurs, à payer cette cotisation.
On pratique toujours en cours aujourd'hui, je te coupe, on en reparle tout à l'heure en fin d'émission.
Voilà, et donc, c'était pas grand-chose, mais on amenait aussi ses disques. Mmh. On n'avait pas de discothèque à l'époque à Radio Basse-Meuse. Chacun amenait ses disques en fonction de l'émission qu'il faisait. Moi, j'ai commencé avec le dimanche après-midi. Et voilà, j'amenais mes disques pour mes 3 heures d'antenne le dimanche après-midi. Et puis, la pub est venue bien après. Moi, on n'a pas gagné notre vie du temps de Radio Basse-Meuse. Hein. Mmh. C'était FM 56, surtout, qu'on a commencé un peu à gagner notre vie. Mais Radio Basse-Meuse, voilà, effectivement, on a eu des publicités. D'abord régionales, c'était pour le café du coin, parce qu'on allait manger nos sandwichs là-bas. Ça a été tous les commerces du Boulevard de la Sauvenière ou de la rue Pont-d'Avroy ou rue du Pot d'Or. Et il y en a quand même quelques-uns. C'est quand même le carré, quand même. On avait quand même une radio qui était installée dans le carré. Plus toutes les boîtes de nuit, évidemment, puisqu'on avait à l'époque Serge Birotte, c'est lui qui orchestrait toute la partie technique, qui était connu évidemment dans toutes les boîtes de Liège. Moi aussi, je travaillais dans les boîtes de Liège, donc on était tous dans le carré. Donc voilà, donc les publicités, c'était surtout axé sur ce qui était quartier. Ça, c'était Radio Basse-Meuse. À la fin, évidemment, donc on a vraiment démarré RBM. Là, effectivement, là, on a commencé évidemment à avoir énormément de succès, à déranger aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais on commençait un petit peu à déranger évidemment la RTBF. Et là, évidemment, on a commencé réellement les publicités et à commencer à avoir de l'argent de la publicité. Ouais. Et là, ça a changé tout.
Bien. Yves a envie d'intervenir par rapport à la guéguerre avec la RTBF, par la RTBF, évidemment.
Voilà,
on va repréciser le contexte.
On en a parlé dans l'émission et c'était dans l'épisode précédent, puisque dès que les radios ont commencé à diffuser de la publicité, la RTBF a déposé plainte et elle a déposé contre trois radios, Radio Contact à Bruxelles, Radio Métropole à Charleroi, qui était la grande radio de Charleroi, et FM 56, et comme Radio Basse-Meuse, pardon, et comme Éric Defolle a expliqué la fois dernière, la RTBF a été déboutée à Charleroi et à Bruxelles.
Et à Tournai aussi, il y avait
à Tournai, radio intérim à Tournai, en fait. Et c'est tombé sur Radio Basse-Meuse et je pense qu'il a expliqué très bien la fois dernière pourquoi, puisqu'il y avait aussi des raisons politiques à ce genre de choses.
Alors expliquez-nous un peu justement ce contexte, de quoi il en retourne par rapport à cette guéguerre aussi, avec en toile de fond une guéguerre entre partis politiques évidemment à l'époque.
Il n'y avait pas que ça, donc il ne faut pas oublier qu'au départ on s'amusait bien. Donc voilà, on s'amusait bien, donc chacun avait envie de mettre en place sa petite radio et chaque quartier de Liège avait sa petite radio. Moi j'ai démarré à Radio Tchantché, donc vous voyez, c'est une radio qui est installée dans les locaux du Royal Motor Union, Boulevard de la Sauvenière à Liège.
77, hein, tu disais.
Voilà, c'était en 1977, 77 et 78, donc avant que je n'arrive à Radio Basse-Meuse. Et chaque quartier avait un peu sa petite radio, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Radio Basse-Meuse? Ça a été complètement différent. D'abord, vous aviez des animateurs qui étaient vraiment, qui connaissaient un peu leur métier. On avait de très bons techniciens, donc là je salue évidemment les équipes techniques de l'époque, surtout Serge Pirotte qui commandait tout ça, qui a fait un travail extraordinaire. Et donc ça veut dire qu'on a commencé à avoir de l'audience. Et l'RTBF était ennuyé par la publicité, mais était aussi ennuyé par l'audience. Pourquoi ? Parce qu'au départ, si on émettait sur la Boulevard de la Sauvenière, le deuxième émetteur qui est arrivé, on commençait à émettre sur toute la ville de Liège. Et là, on a commencé réellement à déranger. Pourquoi ? Parce que le public pro-RTBF, surtout dans les jeunes, commençait réellement à s'intéresser à ce qu'on faisait. Mmh. Ça commençait à devenir dérangeant. On commençait vraiment à devenir concurrent de l'RTBF et on commençait à leur prendre beaucoup d'auditoires. Et pourtant, ils avaient à l'époque, je ne sais pas s'ils s'en souviennent, il y avait Radio Cité à l'époque, était dirigée par Marc Moulin, Martine Matagne et Anne Goreux et toute la clique de...
Qui a d'ailleurs été lancée pour concurrencer les radios libres principalement. Mmh. C'était la riposte de la RTBF. En fait.
Voilà. Et donc ici, ils essayaient un petit peu de concurrencer avec ça. Et Radio Basse-Meuse commençait comme Métropole à Charleroi, comme Bruxelles également. Voilà, on commençait réellement à prendre de l'auditoire. Et là, panique à bord du côté de la RTBF en disant, aïe aïe aïe,
qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, on va tout de suite brandir les fusils. Un, ils prennent de l'auditoire. Deux, ils prennent des fréquences, parce qu'il faut bien dire, à l'époque, les fréquences n'étaient pas autorisées pour les radios privées. Donc, on a pris les fréquences qui étaient libres. On s'est accaparé les fréquences. Il n'y avait pas l'IBPT qui était derrière nous et qui nous disait, oui, vous pouvez y aller. Hein. Donc, on a vraiment pris les fréquences qu'on voulait. Et ça dérangeait. Et alors, évidemment, cerise sur le gâteau, c'est quand on a commencé à prendre du pouvoir avec Radio Basse-Meux, on a lâché de la publicité. Et là, ça a été malheureusement la cerise sur le gâteau et la RTBF n'a pas du tout apprécié.
Voilà.
Il y a beaucoup de directeurs à la RTBF.
Oui, aussi. Voilà, c'est ça. Hein, là, côté hiérarchie, on se défend pas mal. Est-ce que, du coup, vous étiez plutôt, si j'ai bien compris, évidemment, ce que relayait Éric Defa ou alors Pierre Bayle ou Jacques Muche, qui ont été des frères d'armes, évidemment, pour
Jacques
toi.
Jacques Muche était directeur d'FM 56.
Ok, ouais, voilà.
Je ne pense pas que Jacques a connu Radio Basse-Meux. Je crois qu'il est venu après.
D'accord.
Parce que Jacques était d'abord, c'était son dada, c'était le sport. Donc, est-ce qu'il était collaborateur sportif ou journaliste sportif? Je ne sais pas très bien. Puis après, il est devenu directeur, lui, d'FM 56. Je ne pense pas qu'il a fait Radio Basse-Meux.
Et donc, moi, ce que j'entendais, en fait, dans ces témoignages, c'est qu'on associait plutôt, on avait tendance à associer effectivement toute initiative de radio privée à on va dire, au mouvement libéral, au PRL de l'époque, qui était effectivement le grand rival du Parti Socialiste.
C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de radio, il y a eu assez vite deux philosophies différentes. Ouais. Il y avait les radios de l'Association pour la Libération des Ondes, qui étaient des radios associatives, qui ne faisaient pas de pub et qui ne voulaient rien avoir à faire avec la politique, qui étaient, on peut dire, plutôt classé généralement à gauche. En fait.
Mieux et que puis, ne pas faire de pub, ils ne voulaient pas faire de pub.
Oui, ils ne voulaient pas faire de pub, oui. Ouais. Et ils refusaient totalement la publicité. Et puis, il y a eu les radios commerciales, qui étaient membres du groupement des radios indépendantes de Belgique, le DRIB, qui, elles, étaient plutôt considérées comme étant des radios de droite, évidemment. Et donc, il y avait à la fois une bagarre entre radios et puis il y avait aussi une bagarre philosophique, on peut dire. Et
idéologique même. Hein.
Ouais, et les radios de la LO étaient, on va pas dire soutenu, mais la RTBF voyait ça d'un très bon œil, puisque c'était des radios très locales, amateurs, et qui surtout ne faisaient pas d'ombre à la RTBF, tandis que les radios commerciales, elles, en faisaient évidemment, comme il l'a expliqué, et évidemment, ça rentrait aussi dans le jeu du PRL à l'époque, puisque le PRL voulait concurrencer la RTBF, qui trouvait trop gauchiste, comme ça a été expliqué dans l'émission.
Qui pourtant étaient ces radios privées qui ont commencé dans l'illégalité d'abord à balancer de la pub commerciale. En fait, c'était avant tout des passionnés de radio, forcément, ça on ne peut l'enlever à personne. Est-ce qu'il n'y avait pas ce sentiment d'instrumentalisation
On était des jockeys, donc tous ceux qui ont travaillé, je pense qu'à l'exception peut-être de Pierre Bayle, mais nous étions tous disjockeys. Hein, donc on a démarré d'abord comme ça, on a dit disjockeys dans les boîtes du Carré.
Ouais.
Et puis bon voilà, donc on va pas dire qu'on est venu nous chercher là-bas, mais voilà, donc on avait d'abord cette passion de voilà, il y avait d'abord les discothèques et puis les discothèques, ben voilà, on s'est retrouvés à faire de la radio. Mais c'est d'abord la discothèque.
Ouais. Alors du coup, DJ. Passionné de radio aussi, vous le devenez en tout cas. Oui. Voilà, je pense que ça a été bien expliqué aussi à travers les différents témoignages dans les deux volets de On se retrouve après la pub. Il n'y avait pas ce sentiment d'être instrumentalisé justement aussi par rapport à de la part des partis politiques qui se faisaient la guerre à travers les ondes en fait.
Là, il faut dire qu'on a eu c'était Serge De Smet qui était directeur à l'époque de Radio Basse-Meuse et puis ça a devenu Jacques Muche pour FM 56. Il faut dire qu'on était relativement bien protégés par notre direction. Donc en ce qui concerne l'antenne, donc moi j'ai uniquement parlé pour mon job, en ce qui concerne l'antenne, nous on n'a rien senti de ça. Donc nous on nous a réellement laissé faire notre travail. On avait des journalistes, voilà, les journalistes avaient on travaillait avec le journal La Meuse à l'époque, je me souviens d'ailleurs qu'on avait des duplex depuis le journal La Meuse, les journalistes, je n'ai jamais entendu de la part des journalistes qu'on faisait pression politique sur eux, donc je veux dire qu'au niveau vraiment de l'antenne pure, on n'a pas eu cette sensation de devoir faire de la politique ou devoir dire quelque chose, on n'a pas été dicté, rien du tout.
Je crois que c'était quand on dit que les radios étaient plus de droite ou plus libérales, ça ne se reflétait pas dans les informations, c'est ça se sent. C'était une espèce de démarche générale que passer de la pub, c'était aussi dans l'esprit de certains, et dont Radio Contact était même une radio qui était créée par des libéraux, c'était dans l'esprit d'amener une concurrence privée à la RTBF, et derrière la pub radio, il y avait évidemment l'arrivée d'RTL aussi. Quoi, en fait.
Bon, ce qui était aussi dans l'air du temps, après on va avoir de repasser, dernière relance avant de te repasser la parole, mais dans l'air du temps aussi. Moi, je revoyais un peu aussi sur le net en termes d'archives. De 80 à 87, on a quand même le gouvernement Martensgold, donc chrétien libéral. On venait d'avoir cette violente poussée de l'ultralibéralisme avec l'élection aux États-Unis de Reagan et aux États-Unis, au Royaume-Uni de Margaret Thatcher. On connaît son célèbre There's no alternative. Il n'y a aucune alternative possible au capitalisme, à l'ultralibéralisme. Donc peut-être qu'aussi les libéraux ici en Belgique se sont un peu sentis pousser des ailes et ont encouragé. C'est pour ça que je parlais de tentatives éventuellement d'instrumentalisation de passionnés de radio que vous pouviez être du côté de Radio Basse-Meuse.
Oui, mais là tu parles du gouvernement fédéral, mais c'est la communauté française.
Oui, mais attention, le fédéral était concerné aussi puisque De Croo était ministre des Télécoms et c'est lui qui a effectivement fait en sorte qu'on arrête de pourchasser les gens qui couraient partout pour planquer leurs émetteurs, etc. etc. Voilà. Donc je crois que c'est important aussi. Déjà à l'époque, il y avait effectivement ce combat à plusieurs niveaux, non seulement effectivement en communauté française pour l'audiovisuel, mais aussi au fédéral pour les télécommunications. Je crois que c'est une chose importante. Je ne sais pas si Alain, toi, tu veux réagir par rapport à ça.
J'essaie de ne pas m'en mêler.
Ok. Donc,
voilà, j'essaie de ne pas m'en mêler à l'époque.
Il y a prescription.
C'était pas. Voilà, c'était pas. Oui, mais bon, voilà. C'était la politique n'était vraiment pas mon truc. Moi,
okay.
Voilà, donc nous, avec la bande des Joyeux Lurons de l'époque, voilà, on faisait de la radio, point, on poussait des disques et on envoyait de la pub et on essayait de faire notre job le mieux qu'on pouvait. Effectivement, c'était notre passion et voilà. Mais ça, on laissait ça à nos directeurs. L'antenne, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti à l'antenne quoi que ce soit comme pression, quoi que ce soit. Bon, il y avait l'envers du décor toujours, mais c'était pas notre job, quoi. Voilà, j'étais bien loin de tout ça.
Yves Alain, on se retrouve non pas après la pub, mais après une nouvelle salve de l'agenda hebdomadaire par Ludo.
Donnez donc à vos petits
vermifuges lune,
le sommeil et l'appétit.
Vermifuges lune,
plus jamais de timpalo, vos enfants gais et dispos.
Pris en poudre ou en sirop, vermifuges lune.
La porte ouverte à toutes les fenêtres sur les ondes de 48 FM fait très fort puisque on a décidé à partir d'aujourd'hui, bah pourquoi pas, de passer de la pub commerciale.
Voilà. Voilà.
Mais c'est la pub de grand-mère, ça.
Voilà.
Moi, j'ai même pas connu ces pubs-là. C'est voilà. Des pubs des ondes longues.
C'est parce qu'on le veut bien.
Voilà, c'est des ondes longues. Ça.
Merci Ludo, c'est ta sélection et tu nous en parles tout à l'heure, évidemment.
Oui. C'est ma mauvaise influence en diffusant de la pub sur 48 FM.
C'est fini, ça y est.
Les deux semaines précédentes.
On est contaminé.
On t'invitera plus. On t'invitera plus.
C'est trop tard.
Voilà. C'était la dernière fois. Nous sommes toujours en compagnie de Yves Castel de archiveradio.be et réalisateur, co-réalisateur d'ailleurs de On se retrouve après la pub qu'on a diffusée les 7 et 14 octobre dernier, mais également en compagnie de Alain Pirard, ex-animateur de RBM, enfin Radio Basse-Meuse, puis RBM, puis FM 56 et enfin Ciel Radio ou Radio Ciel. Je ne sais plus comment on dit.
Il y a eu de tout là.
Il y a eu de tout. Radio Ciel, Ciel Radio, voilà. Ciel tout court.
Moi, je n'ai pas commencé Radio Ciel parce que c'était place de Verrier à Serein. Et à l'époque, c'était Radio Ciel Serein, d'ailleurs. C'était les débuts. Moi,
okay.
Je n'ai pas connu ça. Je suis venu bien après. Et moi, je suis venu du temps de Ciel FM, je crois. Que c'était,
ah oui, c'est juste Ciel FM.
Il y a voilà. Une cette grande époque où toutes les radios mettaient FM derrière leur nom. Et puis, ça leur est passé après.
Comme 48 FM,
oui, voilà.
Par exemple. Ben voilà, on est une radio un peu vintage, comme ça. Voilà, une question qui me taraudait l'esprit, Alain. Ben, oui. On parlait effectivement hors antenne. Ludo et moi aimons ce média radio. On l'adore. C'est une passion pour nous. On a envie de vivre pleinement cette passion et pas pour autant vivre pleinement de cette passion. Or, pour vous, effectivement, bah, à un moment donné, la pub a été un peu le déclencheur de, d'avoir des revenus.
Bah, on a été payé. Voilà,
voilà, vous avez été payé. Ouais. Comment ça s'est passé tout ça? Parce que après, évidemment, moi, je soulevais aussi hors antenne, je te redonne la parole directement, mais que les choses soit n'étaient pas claires, soit étaient à moitié niées par Pierre Bayle et Jacques Muche dans le premier volet de On se retrouve après la pub, puisqu'ils se défendent, eux, que la pub s'est imposée en fait sur les ondes de Basse-Meuse et puis de RBM en fait.
C'était la suite logique d'abord. Hein, c'était la suite logique. Alors bon, maintenant,
c'est ce qu'eux disent aussi,
voilà,
en fait. Hein.
Voilà, c'est, il fallait qu'on en arrive à ça parce que la radio commençait quand même à coûter de l'argent. Mm-hmm. Bon, il fallait quand même la technique aussi. Hein, donc la technique coûtait quand même pas mal. Donc le matériel s'usait quand même assez rapidement. Donc,
et les saisies aussi.
Et voilà, les saisies aussi. Voilà, le matériel tournait quand même 24 heures sur 24 puisque on animait 24 heures sur 24.
Contrairement au service public de la RTBF.
Voilà, qui s'arrêtait, je pense, à
23h40.
Voilà. Donc et qui reprenait au petit matin pour Liège Matin. C'était déjà Liège Matin à l'époque.
6h du matin, je pense.
Voilà. Ouais. Au début, comme je vous l'ai dit, donc, on vivait de nos activités extra. Moi, j'étais étudiant. Donc au début de Radio Basse-Meuse, j'étais étudiant. Ensuite, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit. Donc, on avait un peu nos cachets des boîtes de nuit. Donc, on tournait.
Ça, on rappelle que tu étais DJ aussi,
voilà,
hein, pour les gens
voilà,
qui nous prennent
voilà,
en route.
On était DJ à l'époque, mais pas DJ comme on paye les DJ maintenant.
Hein, oui, donc,
c'était pas du tout la même... Voilà, on n'avait pas les mêmes salaires.
On
était payé en bière peut-être dans certains endroits.
Oui, enfin, je n'ai jamais été très alcool.
Non, mais peu importe.
Mais voilà, on était quand même bien payé. On travaillait vendredi, samedi, dimanche, mais on était quand même bien payé. Et donc on vivait de ça. Et puis quand la pub est arrivée, évidemment, du temps d'FM 56, effectivement, il y a un moment donné où, s'ils voulaient nous garder, il fallait à un moment donné, voilà, donc nous faire une proposition. Moi, j'ai démarré, en tout cas, je me souviens très bien, le premier cachet que j'ai eu, parce que c'était très flou au niveau de nos contrats, moi, j'ai d'abord commencé avec 15 000 francs belges pour animer 3 heures d'antenne. Donc, je faisais le petit matin, donc je faisais 6-9, d'ailleurs que ça m'a maintenu pendant 25 ans, mais j'ai commencé avec 15 000 francs belges à l'époque pour animer ces 3 heures-là. Et puis, quelques années après, la publicité, on a commencé, la pub, je ne sais plus, ça peut-être que Yves pourrait m'aider à ce niveau-là, quand la pub nationale a commencé, là, j'ai eu 30 000 francs belges par mois, donc pour animer toujours mes 3 heures d'antenne.
Juin 1982.
Voilà, donc, déjà. Donc,
ouais. Dans l'illégalité, voilà. Évidemment, encore voilà. Et toujours à ce moment-là, on le rappelle.
Voilà, l'illégalité, attention qu'on devait déclarer. Ce qu'on,
ouais, ouais. Faut pas mais on aime ça. Tu
voilà,
sais,
donc
on pas...
là, on n'avait pas le choix. Donc,
c'est illégal, on aime.
Là, malheureusement, on a dû quand même déclarer tout ce qu'on faisait. Il n'y a rien qui était. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu un centime en noir à l'époque. Et puis, donc voilà, moi je suis resté avec ce montant-là pendant une bonne partie d'FM 56 jusqu'à ce que le réseau SIS arrive, où là effectivement nos salaires là, ont vraiment grimpé.
Et là on est il y a 30 ans d'ici en 87.
Oui, donc là on est rentré dans les réseaux et là on travaillait au niveau national. Donc j'avais une émission, donc moi je faisais le 6-9 en régional, parce qu'il y avait des émissions régionales et nationales. Et puis alors après je partais sur le national à Bruxelles, puisque SIS était installé à Bruxelles.
Maître Capello, SIS ? Oui. L'acronyme SIS,
Station Indépendante Satellite.
Merci maître.
Voilà, et c'était installé à Bruxelles, c'était boulevard de Waterloo. Ouais. Voilà, on était installé boulevard de Waterloo. Donc moi je terminais le petit matin, puis je montais travailler pour le national. Et là, à ce moment-là, effectivement, je crois que, allez, je peux dire le salaire qu'on avait à l'époque. Moi je tournais autour des 80 000 bruts à peu près à l'époque.
On était déjà loin des 15 000.
Oui, on était déjà loin
2 000
des 15
000. Euros.
Attention que c'était 15 000 nets. Hein. C'était 15 000 nets. Okay. Et puis après, on a eu 30 000 bruts. Enfin, moi, je parle de moi hein, maintenant. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que mes collègues avaient. Je ne me regardais pas. Mais bon, il est clair qu'on ne vivait pas avec ça. Hein. Donc,
on ne parlait pas pognon entre collègues, justement.
Non,
ça se faisait pas.
Non, c'était pas. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'on parlait, mais en tout cas, moi, ce n'était pas mon truc. Donc voilà, moi, j'étais très content de ce qu'on me donnait. Parce que voilà, donc je faisais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je faisais ma passion. On me payait pour faire ma passion. Donc là, j'étais très content de ce qu'on me donnait, et puis je ne vivais pas que de ça, j'avais encore les animations, moi je m'occupais de tout ce qui était animation commerciale, donc il y avait les animations commerciales, à cette époque-là il y avait déjà Cora, on faisait les animations chez GB, dans les magasins de vêtements, les magasins de sport, donc on allait faire les animations là-bas, et là on gagnait très très bien notre vie. Là,
et plus on gagne de thunes, plus on se dit encore de la pub, chargeons les heures d'antenne en
mais
pub.
Oui, il ne faut pas quand même se voiler la face, c'est la pub qui nous payait, oui, et voilà,
jackpot,
mais
quoi.
Au départ on était avec deux écrans pub de 120 secondes. Mm-hmm. On est vite passé à des écrans de 180 secondes, puis il y a eu les écrans nationaux. Donc voilà, la pub a fait vraiment partie de nos émissions. Et voilà, quand on créait une émission, bah, il fallait que la pub soit incrustée dedans. Oui, mais ça ne nous dérangeait pas parce que ça permettait aussi de rythmer l'émission. La publicité rythmait l'émission. Mm-hmm. Et puis c'était des bonnes pubs aussi à l'époque. Hein. C'était des pubs relativement rythmées. Et voilà, on parlait tout à l'heure de Whip Express, là, la lessive. Ouais. Bah là, effectivement, il y avait de l'ambiance. Et puis, c'était l'époque aussi. Allez, je vais quand même rappeler le paradis du matelas. Parce que c'est
Janine.
Voilà, Janine, c'est là que. Bon, Janine, la première publicité de Janine a démarré sur FM 56.
Et Tonton Tapis aussi.
Et Tonton Tapis, oui, voilà. Pierre Doigt de Bord.
Et Walibi.
Voilà, donc il y a eu, voilà, c'est tout des... Mais c'est pas dire qu'on faisait pas attention à la pub, parce que les pubs, elles nous étaient livrées, et voilà, on envoyait des cassettes. Donc c'était des cassettes à l'époque. Hein, ouais, donc, maintenant, tout est numérisé, mais je veux dire que...
Années 80, on rappelle.
Hein. Voilà, on avait des cassettes à l'époque, nous on envoyait des cassettes de pub, voilà, donc on avait notre conducteur de pub, on les envoyait, puis voilà. Et puis ça permettait à certains d'aller fumer une cigarette, parce qu'on ne fumait pas en studio, donc... Et voilà, pendant les périodes de pub. Quoi,
et puis je dirais aujourd'hui, quel cordeur, quelle inconscience. Or, il y avait le mécanisme inverse à l'époque, tu l'expliques Alain, c'était un peu grisant même de se dire, peu importe si on me réduit effectivement mon temps d'antenne en termes d'annonces, de propositions musicales, etc. La station se porte bien, mon salaire, il part vers les sommets.
Voilà, mais la publicité était quand même bien sélectionnée. Donc voilà, donc on essayait quand même, et ça, on avait quand même un directeur d'antenne qui était Pierre Lebec à l'époque, qui faisait quand même attention quand même à ça, du temps des FM 56.
C'était pas le cas partout.
Hein. Des critères de sélection étaient.
Non, c'est pas vraiment des critères de sélection, mais on essayait quand même de. Voilà, les publicités qui venaient du national, on demandait quand même qu'elles restent quand même dans le rythme de l'émission.
Donc là, on parle de la forme.
Voilà, la forme de la publicité. Donc voilà, elle restait quand même dans les rythmes de l'émission. Et les publicités aussi locales, on essayait quand même il fallait quand même qu'elles aient un certain rythme. Donc il fallait pas que ce soit des publicités ennuyeuses, et il fallait qu'elles rentrent encore dans le cadre des émissions. Donc ça, voilà, je ne pense pas, en tout cas je n'ai jamais entendu un auditeur qui s'est plaint à l'époque de la publicité. Jamais. Alors que c'était un peu nouveau pour eux, parce qu'il n'y en avait pas sur l'RTBF.
Bien sûr, voilà. Et sur le fond, la question se posait carrément pas, ou
au niveau des animateurs,
au niveau de disons aussi, que
je ne veux pas parler à sa place, mais
fais-le quand même.
Quand tu étais sur une radio commerciale, j'y ai été aussi. Quand il y avait de la pub, il y avait aussi généralement du bon matériel. Donc c'était un peu gai de travailler parfois avec du matériel un peu convenable qui était là grâce à la publicité. J'ai été sur des radios, il n'y avait pas de pub. Ben, c'était triste de faire émission avec, je veux dire, une vieille table de mixage et deux bêtes platines. Enfin bon, voilà. Quoi. Tandis que dès que tu passais dans des radios commerciales, ben, ça devenait un peu plus chic en quelque sorte.
D'accord.
Que maintenant, c'est l'inverse. Parce que si vous avez par exemple des stations de radio, je prends par exemple Énergie, ils font X minutes de musique sans pub. Donc maintenant, on est en train d'essayer quand même de réduire au maximum la publicité dans les émissions radio, parce que ça dérange.
Il faut dire qu'ils en fourguent tellement aussi à d'autres moments.
La TV nous en fait quand même assez bouffer. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc, et la radio, on essaie un petit peu d'avoir une certaine souplesse maintenant au niveau des radios, au niveau de la publicité, parce qu'ici, ça devient franchement parfois agaçant.
Je reviens quand même à cette question sur le fond. Est-ce qu'il y avait effectivement des critères de sélection par rapport au contenu des pubs, pour quel produit en fait les pubs arrivaient sur les ondes, etc.
Il y a eu. Moi, j'ai entendu à un moment donné, qu'il y a certaines pubs qui étaient refusées. Oui, voilà, parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre, voilà, de la radio. Oui, mais bon, on ne pouvait pas jouer la fine bouche non plus. Donc les publicités nationales, j'ai le temps de vous dire que là, c'était hors de question. Et même 9 minutes de pub par heure. Hein.
Oui, oui.
Non, ça, il y avait quand même. Non, non.
Oui, mais maintenant, il y en a partout, il y en a sur toutes les chaînes de télévision, il y en a vraiment. Je pense qu'elle est quand même beaucoup plus présente qu'il y a quelques années, de plus en plus présente sur Internet. Je pense que là, les réactions commencent à se faire peut-être un peu plus vives, on va dire, par rapport à la présence de la publicité, parce que c'est un constat qu'on peut faire.
Mais il faut dire qu'il y a même des annonceurs qui se disputaient pour venir chez nous. Hein. Moi, je tournais, enfin, en tout cas, dans le petit matin, je tournais à 9 minutes de pub par heure. Il y avait la publicité du Top Horaire également, puisqu'on sponsorisait le Top Horaire, ce qui faisait payer l'info aussi.
La météo.
Et la météo, voilà. Donc tout était sponsorisé, mais 9 minutes, c'est énorme hein, sur une heure d'antenne.
C'est carrément l'enfer.
Donc ça veut dire qu'il ne nous restait plus que 51 minutes pour terminer l'émission. Mais c'était énorme. Mais bon, voilà, ce n'était pas un handicap pour nous, la publicité, parce qu'effectivement, donc on a pu se payer beaucoup de choses avec ça. Effectivement, on a pu se payer des studios un peu plus luxueux et voilà. Et les émetteurs qu'on nous saisissait, comme il le disait tout à l'heure, effectivement, il fallait les remettre en route et ils étaient remis en route très rapidement. Ouais.
Parfait. Alors, comme il nous reste peu de temps à passer en ta compagnie, Alain, moi je veux, si Ludo me le permet en tout cas, voilà, te relancer quand même une petite question pour savoir juste si à l'époque il y avait quand même de votre part, vous, radio, qui aviez décidé de balancer de la publicité commerciale sur les ondes, est-ce qu'il y avait quand même un œil attentif à ce qui se passait sur les ondes des radios associatives qui étaient carrément anti-pub, comme par exemple Radio Air Libre à Bruxelles, on a beaucoup entendu Guy Stukens témoigner, et pour Air libre et pour l'ALO, l'Association pour la libération des ondes.
Alors, au niveau des animateurs, non. Mais il faut quand même bien vous dire que quand FM 56 a démarré, on avait quand même des commerciaux. Donc on avait un directeur commercial à l'époque, on avait des délégués commerciaux, et eux évidemment étaient très attentifs par rapport à ça, surtout au niveau de la publicité locale. Donc là, donc on a eu quand même une bonne dizaine de délégués commerciaux qui ont travaillé du temps d'FM 56, et voilà, donc eux étaient très attentifs à ça. Nous, notre job, c'était de faire de l'antenne, point. Pousser les disques, envoyer la pub, envoyer l'info, et voilà, donc nous, la publicité, je vous ai dit, on nous livrait les cassettes, on les diffusait. Mais il y avait quand même des gens derrière nous, il y avait toute une équipe commerciale quand même derrière nous, hein, qui faisait un boule monstre.
Est-ce qu'à l'époque, tu vis en vase clos, uniquement avec des gens un peu, on va dire, dans le même style de démarche, à savoir, on est des passionnés de radio, on est sur une station commerciale et on a uniquement éventuellement des contacts avec d'éventuels concurrents d'autres radios commerciales, ou alors est-ce qu'il y a des passerelles aussi par rapport à des radios associatives? On sait que Liège a été aussi très très florissante à une époque par rapport à ce monde
au niveau de Liège,
associatif,
voilà,
en radio.
Donc si on parle toujours bien de FM 56 et de Radio Basse-Meuse, au niveau de Liège, non, on n'était pas très proche des autres radios sur Liège, parce que c'était l'époque où voilà, chaque quartier voulait un petit peu sa petite radio, ou bien quelqu'un qui avait envie maintenant de faire un petit peu blabla dans le micro, créer sa propre radio et démarrer. Donc il y a eu plein de petites radios qui sont créées comme ça, à gauche, à droite. Par contre, les associations qu'on avait à l'époque du temps de FM 56, c'était avec les grosses radios qui existaient dans les autres régions. Donc voilà, donc, par exemple Métropole à Charleroi, où Alain Simons d'ailleurs est sorti. Moi je travaillais, Alain Simons faisait le matin à Charleroi, moi je faisais le matin à Liège, et il y a eu des fois qu'on s'est échangé nos émissions, puis il est parti lui sur RTL. Donc lui il travaillait sur Métropole à Charleroi, on travaillait avec SIS déjà à Bruxelles, et oui, donc il y avait une collaboration, mais surtout dans les grosses autres radios. Pas au niveau régional, non.
D'accord.
En tout cas, je ne m'en souviens pas.
Voilà. Avant de repasser la main à Ludo, excuse-moi Ludo, mais c'est parce qu'Alain va devoir nous quitter malheureusement.
Je peux encore rester un petit peu si
vous voulez. Voilà, donc on te repasse alors la main directement et Alain reste avec nous pour un petit moment et deux, trois autres questions supplémentaires. À tout de suite.